It's Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people how see. I'm
ready to lose
on France Inter. Le 18-20.
Et ce soir, je vous emmène dans la fabrique un petit peu de la fin des Beatles. Sérieusement, vous allez assister avec nous à l'enregistrement d'un album qui devait s'appeler Get Back et qui sent déjà la fin du groupe, pas tout à fait, mais on y est presque. Et pour comprendre, 57 heures d'enregistrement qui dormaient, fermées à double tour jusque-là, c'est une véritable mine que nous raconte un livre et aussi un film qui sortira plus tard. Mishka Assayas est avec nous pour en parler dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est au nord du Mozambique qui a appelé ses voisins au secours pour venir à bout des groupes djihadistes de la région. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé des Congolaises arrachées à leur mère en Belgique. Des exécutions terribles dans les gangs colombiens. Et puis des Nord-Coréens qui brisent des briques avec leur tête. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Angélique Boin au secours. La négociation sur le Brexit revient. 18h55, le monde d'après de Franck Madvon. Et la Birmanie où la répression contre les manifestants après le coup d'État continue, mais loin des yeux du monde. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Mishka Assayas.
Bonsoir ma chère Fabienne.
On est heureux de vous avoir avec nous pour parler de ce livre qui sera aussi un peu plus tard un documentaire en trois parties. Ça s'appelle The Beatles Get Back et ça sert donc de bande-annonce à un film étonnamment de Peter Jackson. D'ailleurs, vous allez nous raconter ce que Peter Jackson vient faire dans cette affaire. Get Back, c'était censé être le nom d'un album. Ce sera pas le nom d'un album, mais au moins au cours de ces enregistrements, on assiste à la fabrication de ce titre-là et ça donne à peu près ça.
Faster, do you think?
A bit faster.
One, two, three, four.
Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last.
Et Mishka Assayas, même si on n'est pas fan hardcore des Beatles, rien que ça, moi je trouve ça super émouvant, en fait. Parce qu'on l'a jamais entendu.
Oui, il y a des répétitions qui circulaient sur le net, hein, ça a été piraté il y a quelque temps, mais enfin, là, moi ce que j'ai pu lire, et traduire d'ailleurs, c'est absolument unique, j'ai appris des trucs dont j'avais pas la moindre idée, enfin.
Il y a des inédits qui sont incroyables, il y a des conversations pendant cet enregistrement qui sont dingues, tout a été filmé. Pourquoi ça a été filmé d'ailleurs? Parce que ça devait servir effectivement à un album et ça devait être une sorte de d'appetizer, d'apéritif avant un concert.
C'était censé être une sorte de programme télé qui devait teaser, comme on dit aujourd'hui. Et en fait, c'est une forme de télé-réalité avant la lettre. C'est-à-dire qu'ils sont filmés du matin au soir, non pas dans un studio d'enregistrement, mais dans un studio de cinéma. Et ce qui explique que les conversations ont été enregistrées du matin au soir avec un matériel très professionnel.
Avec des nagras,
de cinéma, avec des nagras.
On connaît bien. Ouais,
exactement,
ouais.
Voilà.
Et 97 heures en tout.
Alors, en fait, il y a 150 heures de film, et il y a une cinquantaine d'heures d'enregistrement qui avaient été volées en 71 par un employé de Apple et qui avait
studio d'enregistrement.
Voilà, exactement, et qui ensuite avait été vendu à des mafieux et s'était entreposé dans un entrepôt aux Pays-Bas. Et il y a eu Interpol qui a mis la main sur les enregistrements.
Et comment, où ça dormait jusqu'à présent, et comment on a ouvert le coffre en fait?
Ben, je vous dis, c'était un truc, c'était une sorte de prise de guerre dans un entrepôt. Interpol les a sortis et puis on a donné ça à John Harris, qui est un journaliste anglais qui a écouté les 150 heures, qui en a fait une espèce de montage, et ça ressemble à une sorte de pièce de théâtre. Ça se passe sur 3 semaines et c'est vraiment comme il y a une intrigue. On se demande s'ils vont faire un concert ou s'ils vont pas en faire un. On se demande si George Harrison, après avoir quitté le groupe,
on va y venir. Pas, mais c'est génial,
hallucinant, hallucinant.
Et on sent, en fait, on va en parler un peu plus longuement, mais on sent que ils s'amusent. En fait, ça marche encore très très bien entre ces quatre-là. Et en même temps, on sent aussi qu'on est en 69 et qu'on est l'année qui précède leur séparation. Il y a des choses en filigrane qui sentent la fin, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, mais bon, je pense que ça a été très exagéré. Il y avait des tensions, effectivement, il y avait Yoko Ono, il y avait des velléités d'indépendance de John, et il y avait surtout le fait que George Harrison en avait marre d'être considéré avec condescendance comme le petit frère sympa, dont les chansons étaient systématiquement refusées, quoi, pratiquement. Donc, mais à part ça, non, il y a pas du tout de mauvaise ambiance entre eux. Disons qu'il y a des tensions comme dans n'importe quel groupe. Après, la tension, ça concerne le business. C'est plutôt parce que la compagnie Apple est en faillite, il y a un déficit terrible et il y a un homme d'affaires qui va arriver amené par Lennon et non approuvé par Paul. Et je pense que c'est essentiellement ça qui a entraîné la séparation du groupe.
Alors, parmi ces passages dont vous parlez, tiens, regardez, dans la bande-annonce, parce qu'on nous en donne, on nous en a donné très peu, en fait, pour en guise d'avant-goût, dans la bande-annonce, on a un petit avant-goût, quand même, des conversations qu'on peut entendre.
There's a show to be had, and then once we get over the nervousness...
Take 10. Oh,
yeah. I think we should forget the whole idea of this show.
The meeting was fine, but then it all sort of fell apart in the end.
So what's our next move?
Maybe split George's instruments.
But it's going to be such a comical thing, like in 50 years' time. They broke up because Yoko sat on an ember.
Ça vous fait rire.
Oui.
Il y a deux passages. Alors, il y a une chose d'abord, en feuilletant le livre, parce que tous les dialogues y sont. J'imagine d'ailleurs que ça a dû être assez compliqué à traduire, cette affaire.
Ah, ça lui s'est arraché les cheveux, ça, je peux vous dire, parce qu'il y a plein des imitations d'accent, des jeux de mots. Enfin, il y avait Christiane Rochefort qui avait traduit un recueil de textes loufoques de Lennon et elle avait appelé ça tentative désespérée de traduction. J'aurais pu faire la même chose.
Eh ben, voilà. Il y a aussi des photos, tant que j'y suis, pour pas oublier, il y a des photos qui sont magnifiques, dont certaines sont signées de Linda McCartney, d'ailleurs, qui est là beaucoup, elle aussi. Alors, il y a des passages comme ça dans les dialogues que moi j'ai trouvé c'est vraiment génial. Quand je vous disais dans les moments où on sent qu'il se passe des choses, à un moment il parle de Brian Epstein par exemple, qui est mort en 67, deux ans avant, et c'est une discussion avec George et Paul, et George dit c'est plus pareil, et Paul répond non, parce que personne ne décide plus rien, il se passe plus rien, on est devenu très négatif depuis qu'Epstein est mort, et c'est pour ça que chacun à tour de rôle, on en a eu marre de ce groupe en fait. Moi j'ai l'impression que c'est la première alerte en fait, la mort d'Epstein.
Exactement, c'est un peu leur papa, il est plus là. Et à un moment, il y a Paul qui dit, écoutez, moi, j'ai pas besoin d'un papa pour me dire que j'ai besoin il faut que je me lève à 7h30, 8h du matin pour aller en studio et faire un truc. J'arrive à me discipliner tout seul. Et il dit, le truc, c'est que on est tous en train de vouloir faire des trucs différents et on n'arrive pas à se concentrer sur notre boulot. Il dit, il faudrait qu'on ait des horaires de bureau. Comme ça, on arriverait à s'en sortir.
Là, d'ailleurs, ils ont les horaires de bureau parce qu'ils sont censés arriver à 10h du matin, tous les matins. Bon,
plutôt 11h, le seul qui arrive à l'heure, c'est Ringo, d'ailleurs.
Voilà. qui a l'air d'être le bon élève de la du lot. Un peu plus tard, c'est Paul. Tu vois, c'est pas grave si ça tourne mal. En réalité, c'est pas grave tant qu'on est quatre et qu'on est capable de s'en rendre compte. Il y a Georges qui rigole et qui dit ça, c'est sûr. Moi, je m'en suis rendu compte. Et Paul lui répond non, mais je veux dire, au lieu de s'en rendre compte, qu'on décide de régler les choses. C'est ça que je pense. Et Georges dit, je crois qu'on devrait divorcer.
Mais d'ailleurs, il met sa menace à exécution puisqu'il se tire carrément au milieu d'une répétition. Il s'en va. Et le lendemain, il y a John et Paul qui sont là avec d'autres membres de l'équipe qui disent « Ah bon, il est pas là ?» Et Paul qui rigole, il dit « j'avais même pas remarqué qu'il était là. »
Ouais. et c'est le bout d'extrait qu'on a entendu. Il y en a un qui dit « qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on partage les instruments ?»
Oui, c'est ça. On va partager les dépouilles. Et à un moment donné, il suggère de continuer à trois.
Ouais.
Et il y a Ringo qui dit « Ouais, mais alors si on continue à trois, il va falloir jouer plus fort quand même. » Et il y a John, d'une manière un peu provocante, qui dit « On n'a qu'à demander à Clapton de venir. » Et ça ne manque pas de sel, parce qu'on sait que Clapton, évidemment, était amoureux de la femme de George Harrison.
Mais c'est marrant que Harrison parte le premier. D'ailleurs, il revient après, qu'il ait ce moment un peu éruptif, parce que ce qu'on raconte aussi dans ce livre, ce que vous avez traduit, c'est que il est allé voir d'autres horizons de George Harrison à ce moment-là. Il revient de Woodstock, il a croisé Dylan.
Il a
travaillé avec lui, etc. Ouais. Donc il revient, il est dans un autre état d'esprit.
Il a une toute autre perspective. Et tout à coup, il se dit, moi, mon avenir, c'est pas dans ce groupe. J'ai plein de chansons. Musicalement, je me sens très à l'étroit dans ce carcan, et il est systématiquement négatif. C'est-à-dire toute l'intrigue du début, c'est parce que les Beatles ont donné leur dernier concert en août 1966, c'était l'ultime concert de leur tournée américaine, et depuis, ils ne se sont consacrés qu'au travail de la musique en studio. Paul est tout excité, il veut rejouer en public. Toutes ces répétitions, c'est en vue de donner un concert. Mais ils ne savent pas où, ils ne savent pas quand, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas devant qui, etc. Donc, il y a toutes sortes d'idées, les plus farfelues les unes que les autres, qui sont suggérées. Il y en a une en particulier, qui est de mettre tout le monde dans un bateau et de partir en Libye, donner un concert à Sabratha, sur la côte, près de la frontière tunisienne. Et ils sont à deux doigts de le faire. Et à un moment donné, George dit systématiquement non, je veux pas. Et puis après, il y a Paul qui dit oui, mais là on va faire un concours. Il y a comme ça, il y a des centaines de personnes qui pourront nous rejoindre. Et puis George qui dit non, j'ai pas envie de me retrouver avec tout un tas de connards que je connais pas sur le bateau. Non, c'est vraiment très marrant, quoi. On dirait c'est les Marx Brothers un peu.
Et ça se termine sur le toit. Pour le coup.
Oui, mais alors le
concert,
mais
le toit, mais rien. C'est le fameux concert sur le toit.
Mais absolument rien n'était prévu. D'abord, ouais. Le toit, moi, c'est vraiment, je m'en faisais une idée. Je pensais que c'était un grand toit, vous savez, avec des plantes vertes, je sais pas quoi. Mais pas du tout. C'est un bout de toit rikiki, super dangereux. Bon. Et c'est au sommet, donc, des studios Apple où ils sont allés parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être à Twickenham, qui était une ambiance épouvantable. Ils avaient des spots dans la gueule, etc. C'était pas possible. Et donc, en fait, ils veulent répéter les chansons qu'ils ont, ils veulent les filer, plus exactement. Les chansons qu'ils ont répétées, ils savent pas où le faire. Et Paul, il dit, il faut le faire en public, il faut le faire dans un endroit. Puis il dit, à un moment, il cherche une espèce de happening, de coup de com', quoi, d'une certaine façon. Il dit, bon, on va le faire dans un endroit où on n'a pas le droit de le faire. On va aller faire comme dans un square, dans un parc. Non, on va le faire à Hyde Park. Et à un moment donné, il dit, bah, pourquoi on n'irait pas sur le toit déjà pour répéter? Et il y a George qui dit, oh, non, j'ai pas envie d'y aller, etc. Et à un moment, c'est grâce à John qui dit, bon, écoutez, les gars, ça suffit, ça fait des jours qu'on n'en parle. Allez, on y va. Et ça, mais ça se règle en 30 secondes. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça a failli ne pas se faire. Et en fait, voilà, le réalisateur du programme télévisé, qui les suit du matin au soir, a fini par désespérer totalement. Et quand même, il arrivera à sauver quelque chose, d'ailleurs.
Alors, il y a ce qui est intéressant qu'on voit à la fois dans leur conversation, mais aussi dans les photos qui ont été prises au fur et à mesure, et ce qu'on voit donc forcément dans le film, c'est que donc Linda McCartney est pas loin, parce que c'est elle qui prend les photos.
Ouais.
À un moment, il y a un adepte de Krishna qui est pas loin aussi, parce qu'on est dans la période post-indienne des Beatles.
Oui.
Donc il y a le Krishna qui est dans un coin, il y a producteur, etc. Et puis, il y a Yoko Ono, qui est là tout le temps. Alors pour le coup, on la voit vraiment sur les photos parce qu'elle est collée à John.
Ah bah oui.
Et il y a cette scène incroyable, vous dites qu'ils sont assis en cercle, il est pas là John à ce moment-là. Ils se mettent à parler de la réunion de groupe qui a eu lieu la veille déjà chez Ringo, au sujet de la relation entre John et Yoko. Et Paul dit ceci, en fait, il y a deux réponses possibles. L'une, c'est résister, ramener les Beatles à quatre personnes sans Yoko et lui proposer juste, mettons, d'assister aux réunions de groupe. Et l'autre, c'est admettre que elle est là et qu'ils peuvent pas se séparer, que c'est juste comme ça et que ce sera pas autrement, en fait. Donc il y a eu cette discussion quand même. Trop de place, la Yoko.
Oui, à un moment, il fait une blague, c'est ce qu'on a entendu dans le montage. Il dit, mais quand même, les gens vont se marrer dans 50 ans quand ils apprendront que les Beatles se sont séparés parce que Yoko Ono s'est assise sur un ampli.
Oui, c'est vrai.
Bon,
c'est vrai.
Dit ça. Mais non, en fait, il est assez sage. Enfin, c'est un peu celui qui essaye de tenir la boutique. Et il dit, bon, on va pas prendre John de front parce qu'il va m'envoyer bouler, il va m'envoyer me faire foutre et il dit, ils sont en fusion, ils sont dans leur délire, on ne peut rien faire. La seule chose que je peux éventuellement lui demander, c'est peut-être qu'on peut écrire des chansons sans demander tout le temps à Yoko son avis. En gros, c'est ça. Mais il veut pas créer de conflit. Pas du tout.
Mais alors, John va répondre, parce que ils vont finir par s'en parler entre eux. Il dit, de toute façon, je vous sacrifierai tous pour elle. Voilà. C'est comme ça.
Parce qu'il est raide, dingue, amoureux.
Il y a rien d'autre.
Ils sont en fusion.
Elle vient partout et c'est tout. Mais si je vous pose la question, c'est parce que parmi toutes ces espèces de légendes qu'il y a eu, autour des Beatles, il y a aussi eu cette légende qui disait que c'est Yoko Ono qui avait séparé les Beatles.
Disons que ça a été un élément de tension comme il peut toujours en exister dans les groupes. De la même façon, on a monté en épingle l'engueulade qu'il y a entre Paul et George à un moment donné, où il y a George qui lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je joue? Si tu veux pas que je joue, je m'arrête de jouer, enfin, etc. Mais ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Après, l'histoire avec Yoko, c'était effectivement un problème. Mais l'essentiel, c'est quand même l'histoire du déficit de Apple. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en train de perdre de l'argent, mais comme c'était pas possible. Et en fait, Alan Klein, vraiment, c'est une sorte
Alan Klein, c'est celui qui a fait venir
c'est
John
Lennon. L'homme d'affaires new-yorkais qui a mis de l'ordre dans les affaires de Apple. Et c'était une sorte de coup d'État aux yeux de Paul. D'autant que pour faire rentrer l'argent, Alan Klein a fait en sorte que l'album abandonné et les prises de vue de ses répétitions soient assemblées dans un film qui s'est appelé Let It Be et qui est sorti en mai 1970, un mois après l'annonce de la séparation par Paul. Et également, l'album Let It Be, alors ça a été le casus belli pour Paul, parce que Alan Klein a fait venir Phil Spector, qui a rajouté des violons, des chœurs wagnériens, qui a ralenti la vitesse de défilement d'un titre, et qui a choisi lui-même son ordre, enfin qui a fait...
D'ailleurs, il y a eu plus tard une version studio beaucoup plus proche de ce qu'on va entendre.
McCartney était fou de rage. Et en fait, 30 ans après, il est arrivé à publier, et d'ailleurs on en parle moins, mais c'est un document extraordinaire, et c'est un très bel album, ça s'appelle Let It Be Naked, qu'il en soit tout nu. Et c'est vraiment le groupe tel qu'il a été enregistré, sans fioritures.
Et c'est ce que je trouve fascinant, moi, dans ce qu'on entend là, dans ces enregistrements-là, c'est que, alors effectivement, il y a un côté très potache, et comme on l'a dit, qui peut être aussi extrêmement sérieux, voilà, et parfois on est un peu borderline. Et Et pourtant, on est à un an de leur séparation, ils sont hyper créatifs.
Ah oui.
Parce qu'il va y avoir Abbey Road, il va y avoir Let It Be, tout ça naît à peu près dans ces trois semaines de studio.
Il y a une légende, moi j'y ai longtemps cru, c'était qu'ils étaient en train de se décomposer quand ils enregistraient cet album, que la raison pour laquelle il s'est pas terminé, c'est qu'ils se disputaient tout le temps, que rien ne se passait, que c'était un désastre, et que voilà, on a ramassé quelques bribes. En fait, pas du tout, ça s'est arrêté parce que Ringo Starr devait jouer dans un film avec Peter Sellers, donc de toute façon son temps était limité, et la moitié des chansons de Abbey Road ont été élaborées pendant cette période. Alors après, la légende dit aussi que après le désastre de Get Back qui a pas été achevé, ils se sont dit on va faire Abbey Road, c'était un climat idyllique. Pas du tout. En fait, ils étaient tellement contents qu'ils ont fait Abbey Road après parce qu'ils avaient le temps et puis en fait c'est le problème, c'est que John est parti quoi.
Est-ce qu'on dit que cette séparation était inéluctable ou au fond ça a tenu à pas grand chose en fait,
Mishka? Mais ça a tenu à très peu et ils auraient très bien pu avoir comme ça quelques mois off comme beaucoup de groupes et se retrouver. Après, évidemment, comme on connaît l'histoire, on voit des signes avant-coureurs partout. C'est facile quand on rétrospectivement. Mais en fait, et d'ailleurs, c'est ce que Paul McCartney a récemment déclaré dans une interview, c'est que si ça n'avait tenu qu'à lui, le groupe aurait continué.
En tout cas, c'est fascinant à lire tous ces dialogues. Les photos sont magnifiques. Le film sera sur Disney+, 25, 26, 27 novembre ou 24, 25, 26. On vérifiera, ne vous inquiétez pas. Signé Peter Jackson, ce qui est quand même un drôle de truc. C'est lui qui a mis le nez là-dedans et qui a fait les montages. Sinon, le livre The Beatles Get Back, formidable. Mishka Assayas, c'est vous qui l'avez traduit. Et je vous remercie beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et ça se passe dans le nord du Mozambique quand les voisins de l'Afrique australe viennent prêter main forte au nord du pays pour lutter contre les groupes djihadistes. Le bruit du monde, la suite, Sébastien Logénie.
La Colombie et le Venezuela sous le choc après le meurtre glaçant de deux jeunes adolescents.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir à tous. En a-t-on fini avec le Brexit? Eh bien non, Fabienne. Les Européens ont fait de nouvelles propositions à Londres hier pour aménager le protocole irlandais.
Le monde d'après, Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir Fabienne. En Birmanie, la résistance s'organise face à la junte au pouvoir et on n'est pas si loin que ça de la guerre civile.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis et Curtis Harding qui ne veut rien nous cacher. Can't hide it sur France Inter. Le bruit du monde, ce soir, est dans le nord du Mozambique, dans la province du Cabo Delgado. Là, un groupe de djihadistes affiliés à l'État islamique sème la terreur depuis 2017. En 4 ans, 3000 morts, 800 000 déplacés, ce sont les chiffres des organisations humanitaires. Ces derniers mois, plusieurs pays voisins ont envoyé des troupes pour aider le Mozambique, notamment le Rwanda, avec un millier de soldats et de policiers. Laure Boulard les a accompagnés et c'est elle qui raconte.
Palma, ses manguiers, ses supermarchés saccagés et ses maisons en ruine. Cette ville du nord du Mozambique porte encore les marques de l'attaque d'ampleur du 24 mars 2021 lancée par les djihadistes d'Ansar al-Sunna. Une attaque qui avait fait des dizaines de morts et qui avait braqué les projecteurs du monde entier sur l'insurrection islamiste du Cabo Delgado. 6 mois plus tard, la zone est quadrillée par des soldats mozambicains et rwandais. Amadi vend du riz, du sel et du savon sur un petit étal.
La vie reprend petit à petit, la sécurité revient. On remercie Dieu, mais aussi les militaires d'autres pays qui sont venus nous aider. J'ai perdu tant de choses, beaucoup de membres de ma famille. On a perdu nos maisons, nos proches. Certains se sont enfuis et ceux qui sont restés ici en ville mènent une vie très difficile. Cela m'affecte beaucoup.
Au Cabo Delgado, le terrorisme a également mis en péril les activités économiques. Un mois seulement après l'attaque de la ville de Palma, le géant français de l'énergie Total annonçait l'interruption de son méga-projet gazier, évalué à plusieurs milliards de dollars et basé seulement 10 km plus au sud. Ismaël travaillait comme cuistot sur le site de la future usine de gaz naturel liquéfié. Et c'est là, dans le camp de réfugiés de Quitunda, accolé aux locaux de Total, qu'il est venu trouver refuge après l'attaque de son village.
On a vu arriver les chebabs. Ils ont tué tout le monde. Ils ont découpé les gens en 1000 morceaux et ils les ont étalés sur la route. Du coup, lorsque tu passais par là, tu pouvais reconnaître les membres de ta famille. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas pourquoi ils sont venus nous envahir.
Revendications religieuses ou expression des frustrations d'une région se considérant comme laissée pour compte, l'origine du groupe Ansar al-Sunna, principalement composé de Mozambicains, fait débat. Avant de les désigner comme des terroristes, Maputo les voyait comme des bandits. Passé à la lutte armée en 2017, le groupe est aujourd'hui considéré comme étant affilié à l'État islamique.
Ils nous disaient que leur objectif, c'était de prendre le contrôle de tout le Mozambique.
Enlevée par les djihadistes, cette jeune femme est restée leur captive pendant plus de 6 mois. Elle a été violée et contrainte au travail forcé avant de réussir à s'enfuir.
Ils voulaient gouverner le Mozambique à partir de Mocimboa da Praia et de Palma, les villes qu'ils occupaient. Il disait qu'il voulait la tête du président Filipe Nyusi et qu'il ne devrait pas y avoir d'autre religion que la leur. Mais c'est juste du mensonge. Ce qu'il faisait, cela n'avait rien à voir avec la religion. C'est juste du banditisme. Aucune religion ne dit que tu dois tuer. C'est du mensonge. Aucun être humain ne devrait avoir à vivre comme nous vivions avec eux. Nous n'étions pas traités comme des êtres humains. La seule chose qu'ils faisaient, c'était nous maltraiter.
Cet été, les forces mozambicaines et rwandaises ont revendiqué la reprise de plusieurs localités longtemps restées aux mains des djihadistes.
Bienvenue à Mbao.
Major Steven Kouraba.
La localité de Mbao était l'un des bastions des terroristes. C'est d'ici que les leaders du groupe préparaient leurs opérations. Et c'est ici que le commandant de leur aile militaire, Bin Omar, vivait. Donc ils se sont beaucoup battus pour nous empêcher de venir ici, mais nous avons réussi à les battre.
Mbao a été reprise le 20 août dernier, une dizaine de jours après la ville portuaire de Mocimboa da Praia. Si les djihadistes semblent avoir perdu du terrain, les analystes mettent en garde contre les risques d'enlisement du conflit. Pas encore de date de départ donc pour les Rwandais, ni pour le contingent des pays d'Afrique australe qui ont récemment annoncé prolonger leur mission dans le nord du Mozambique.
Laure Boulard, au Mozambique pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Laure. Le bruit du monde, la suite passe sous les radars, mais rien n'échappe à Sébastien Eugénie. Et Sébastien, nous sommes dans les rues de Medellín, en Colombie. La Colombie secouée par un double assassinat révoltant.
Le double assassinat de deux jeunes adolescents dans des conditions abominables. L'un était à peine majeur, l'autre n'avait que 12 ans. C'était samedi dernier dans la ville de Tibú, au nord du pays, à la frontière avec le Venezuela. Les deux jeunes garçons vénézuéliens sont pris en flagrant délit de vol dans une boutique. On les voit sur une vidéo tournée par des témoins. Le plus jeune porte un sac à dos rouge, des colliers, on dirait encore un enfant. Les deux ados ont les poignets attachés avec du scotch. Silencieux, désemparés, ils sont entourés d'adultes qui leur font la leçon. Et malheureusement, dit l'un des adultes, ce sont deux enfants très jeunes. On ne veut pas vous voir gisant au bord d'une route demain. On va vous remettre aux autorités. Quelques heures plus tard, toutefois, les deux corps des deux jeunes adolescents sont retrouvés sur un sentier en pleine campagne, gisant dans une mare de sang, exécutés d'une balle dans le torse. Un carton sur le dos de l'enfant au sac à dos rouge, sur laquelle on peut lire « voleur ». Les images, Fabienne, sont bouleversantes. Elles ont fait le tour des réseaux, des télés, autant en Colombie qu'au Venezuela, condamnées par l'ONU qui demande une enquête, condamnées par le président colombien, condamnées par le régime de Nicolas Maduro au Venezuela qui demande carrément à traduire son homologue colombien devant la Cour pénale internationale. Reste à savoir qui sont les tueurs, des dissidents des FARC ou des gangs de trafiquants de drogue qui terrorisent la région. Deux hommes armés, deux civils, filmés par la vidéosurveillance emmenant les enfants, sont recherchés par la police.
Direction la Belgique avec l'ouverture d'un procès où l'État belge est poursuivi pour crime contre l'humanité.
Ce sont cinq femmes qui poursuivent l'État belge, cinq femmes métisses dont on a découvert le destin tragique il y a un an, une histoire qui se confond avec le passé colonial du pays. Ces femmes, aujourd'hui septuagénaires, sont nées au Congo belge d'une mère noire et d'un père blanc. Un métissage interdit à l'époque coloniale, considéré comme une menace pour la suprématie de la race blanche. Écoutez le témoignage d'une des plaignantes recueillie il y a un an par nos confrères de l'AFP. Elle s'appelle Lia Tavares Mujinga. Elle est âgée de 74 ans.
On nous appelait les enfants du péché parce qu'un blanc n'avait pas le droit d'épouser une noire, quoi. Donc l'enfant qui naît est un enfant de la prostitution. Ils m'ont enlevé de chez ma mère pour aller me placer dans une institution religieuse. Comme ils avaient enlevé d'autres enfants avant moi, comment est-ce qu'on peut rattraper toute une vie perdue? Parce que c'est une vie cassée. Complètement.
Au total, on estime à 15 000 le nombre de métisses d'enfants, le nombre d'enfants métisses, filles ou garçons placés dans des institutions religieuses, des orphelinats, à des centaines de kilomètres de leur famille, puis abandonnés au moment de la décolonisation et parfois abusés par les nouveaux maîtres du Congo. 70 ans après, elles sont donc cinq à porter l'affaire en justice, accusent l'État de crimes contre l'humanité, car ce crime est imprescriptible en Belgique. Elles réclament 50 000 euros de dédommagement à l'image de ces indemnités versées au Canada aux enfants autochtones placé en pensionnat. Le jugement ne sera pas rendu avant des semaines.
Allez, on termine sur un tout autre genre, avec du grand guignol à la nord-coréenne.
Je n'ai pas résisté à vous parler de ces vidéos qui font un carton depuis hier sur la toile. Une démonstration d'arts martiaux totalement baroque sous le regard amusé du leader du pays Kim Jong-un. Extrait sonore. Voilà, il faut imaginer ici les soldats de l'armée nord-coréenne, torse nu, tout pectoraux dehors, enchaîner les numéros un peu comme au cirque. On y voit des hommes casser des briques avec leur tête ou leurs mains, se prendre des coups de marteau sur le bras, s'allonger sur des tessons de bouteilles pendant qu'on leur brise un morceau de béton sur le ventre à coups de massue. Un spectacle commenté par la présentatrice favorite du régime qui encense la force, la bravoure, le moral de l'armée nord-coréenne et le tout sous les yeux d'un parterre d'apparatchiks et sous les yeux également du leader du pays, Kim Jong-un. Ben-Gurion, tout sourire, au-delà du kitsch absolu de la séquence, ne perdons pas de vue le message géopolitique derrière les torses nus. On peut aussi voir des armes bien plus dangereuses, notamment des missiles intercontinentaux. Pyongyang qui cherche à montrer ses muscles, à se rendre visible à tout prix.
Et ouais, et ces missiles, comme vous dites, ne se cassent pas à coups de briques ni à coups de tête.
Non.
Merci beaucoup, Sébastien Eugénie. Allons faire un détour par le Brésil. Tiens, dans Un jour dans le monde, Vinicius de Moraes, à Felicidade sur France Inter.
Felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando. Haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata. Acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois te leva oscila e cai como uma lágrima de amor.
A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Passarinhos, tudo isso ela tem, e é por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela.
Vinicius de Moraes à Felicidade sur France Inter. Allez, du Brésil jusqu'à Bruxelles, comme chaque jeudi, avec Angélique Bois.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
l'European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes avec vous, Angélique. Brexit, donc, saison 2, voire saison 3, on ne compte plus vraiment. Ne me dites pas, Angélique, qu'une nouvelle négociation entre Bruxelles et Londres est en train de s'engager.
Eh bien, si Fabienne a écouté hier le nouveau monsieur post-Brexit de la Commission, j'avoue que j'ai eu quelques sueurs froides parce qu'on a le sentiment qu'en effet, on me remet en ce moment une pièce dans la machine. Maroš Šefčovič, c'est le commissaire slovaque, c'est le gardien de l'accord qui a été négocié par Michel Barnier et il veille aujourd'hui à ce que les engagements pris par Londres soient tenus. Or, eh bien, sur le protocole nord-irlandais, les contrôles douaniers promis par Londres entre la Grande-Bretagne et la province nord-irlandaise ne sont toujours pas effectifs. Londres menace depuis des semaines de déchirer l'accord jugé inapplicable. Rappelez-vous cette guerre de la saucisse, on en a parlé ici. Les Britanniques, en fait, ne veulent pas filtrer les produits qui circulent sur leur territoire, alors que c'était pourtant le compromis trouvé pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Et puis les Européens, eux, eh bien, ils veulent protéger le marché unique. On y revient. Pas question qu'une saucisse anglaise qui ne serait pas à nos normes ne se balade chez nous. Il faut bien la contrôler, l'étiqueter correctement. Or, tout cela, eh bien, n'est toujours pas en place.
Et là, j'ai l'image d'une saucisse anglaise qui se baladerait toute seule chez nous. Donc, hier, Angélique, Bruxelles a clairement fait des concessions.
Oui, Maro Sefcovic a reconnu, sans le dire, qu'on avait sans doute exigé trop de choses des Nord-Irlandais. L'impact sur leur rayon est assez lourd. L'équipe de négociateurs a donc travaillé d'arrache-pied, a rencontré les dirigeants politiques en Irlande du Nord, des représentants de PME, d'entreprises, et même consulté, nous a-t-il dit, des membres de la société civile. Et il propose, eh bien, aux Britanniques d'alléger considérablement les contrôles douaniers. Le ton de son intervention hier soir était assez surprenant, je dois dire.
Aujourd'hui, la Commission européenne propose un ensemble solide de solutions créatives et pratiques conçues pour aider l'Irlande du Nord à faire face aux conséquences du Brexit. Nous avons travaillé durement. Nous avons exploré tous les aspects possibles du protocole et parfois nous sommes allés au-delà de la législation européenne en vigueur.
Et alors, Angélique, il parle de quelles propositions exactement ?
Eh bien, par exemple, un camion qui transporterait ces fameuses saucisses anglaises, plus des produits laitiers, plus du fromage, eh bien, n'aurait plus qu'un seul certificat de conformité aux normes européennes à fournir pour livrer un supermarché, et non plus un par catégorie de produits. On tord, en fait, le code douanier de l'Union, ce n'est pas rien. La circulation des médicaments pourrait être également largement simplifiée. Bruxelles propose 50 à 80% de paperasse en moins, selon le type de contrôle. C'est ce que nous a dit le commissaire, c'est énorme. Voilà l'offre sur la table qui permet en fait de dire aux Britanniques non, l'Union n'est pas engoncée dans ses règlements et ses normes. On sait être pragmatique quand c'est nécessaire, mais il y a toujours un mais. C'est là que la négociation va se corser. En échange, eh bien, on va exiger des Britanniques qu'ils mettent enfin en place les contrôles douaniers sans cesse à journée, plus un étiquetage extrêmement clair des produits qui seraient donc par exemple identifiés comme des marchandises qui vont rester en Irlande du Nord, qui n'iront pas se balader, on y revient, dans notre marché unique. Et puis, on demande aussi un accès en temps réel aux bases de données. En clair, OK pour que l'Irlande du Nord reste en partie dans le marché unique européen, mais on garde un œil sur ce qui y circule.
Et alors, est-ce que pour Londres, ça va suffire, tout ça ?
Oh, sans doute pas, en fait, parce qu'on ne change pas la philosophie du protocole. Comme réclamé, on ne le déchire pas, on l'aménage. Et Londres a tout intérêt à faire durer des négociations parce que ça fait gagner du temps. D'ailleurs, sa dernière exigence, c'est qu'en cas de litige, ce ne soit pas la Cour européenne de justice qui tranche. Décidément, la Cour, elle en prend pour son grade en ce moment. Mais ça, c'est une ligne rouge européenne. On est donc parti pour de longues négociations. Et on sent, en fait, aussi, quand même, ici, beaucoup de lassitude.
Alors, sauf du côté de la France, quand même, Angélique, parce que nous, on est directement impacté sur l'autre dossier chaud, c'est celui de la pêche.
Oui, il y a encore des dizaines de bateaux bloqués sans licence. La France a essayé ces derniers temps de mobiliser ses partenaires. Va-t-on vraiment riposter à un moment commercialement comme le menace quasiment chaque jour le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune ? Là aussi, c'est un peu l'inconnu. On ne sait pas très bien où on va. La Commission calme plutôt le jeu. Chez nombre d'États européens, on a d'autres chats à fouetter. On ne sait pas encore si le sujet sera sur la table du prochain sommet des chefs d'État prévu jeudi prochain. Faut rappeler quand même, il y a à l'ordre du jour une autre crise, c'est celle de l'énergie, ce qui n'est pas rien.
Chaque chose en son temps, les poissons d'abord, l'énergie après, les saucisses, ce sera viendra en troisième position. Merci beaucoup Angélique, on se retrouve jeudi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Franck Madvon. Ce soir, Franck, en Birmanie, près de 9 mois après le coup d'État, la répression continue. Elle s'est même intensifiée ces dernières semaines. L'ONU redoute une vaste offensive de l'armée au pouvoir contre ses opposants. La résistance à la junte ne baisse pas les armes, mais le combat qu'elle-même est de plus en plus périlleux.
Je vous emmène, Fabienne, dans un village de la commune de Khao Tang. C'est dans le sud de la Birmanie. Nous sommes dimanche dernier. Des soldats font irruption dans un atelier de caoutchouc qu'ils soupçonnent d'héberger des opposants. Ils ouvrent le feu. Un enfant de 11 ans qui aidait son père artisan est tué d'une balle à l'estomac. Le père est grièvement blessé. Ce drame est rapporté par l'association d'assistance aux prisonniers politiques, une ONG qui dresse un bilan quotidien de la répression, et pas un jour ne passe sans qu'une tragédie de ce type ne soit consignée sur son site internet. Le bilan du jour s'établit à 1170 morts et 7240 arrestations depuis février, des chiffres certainement sous-estimés. Au printemps, les manifestations manifestations contre la junte au pouvoir étaient massives. Elles se sont raréfiées, trop dangereux. Dans les grandes villes, des petits groupes tentent encore de protester. Ils sont 5, 10, 30. Ils se fixent rendez-vous sur les réseaux sociaux et déploient à la hâte une affiche en tissu qui dénonce les crimes de la junte. Le rassemblement dure en général quelques minutes. De son côté, l'armée multiplie les raids. Elle est particulièrement en alerte depuis que le gouvernement d'opposition, sans doute exilé en Thaïlande, lui a déclaré officiellement la guerre le mois dernier.
Et Franck, la junte a même déployé des troupes dans plusieurs États.
Oui, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'en est ému la semaine dernière. Dans plusieurs États, Internet a d'abord été coupé, puis des centaines de soldats ont en effet été déployés avec des armes lourdes. La junte veut manifestement en découdre avec les armées locales qui contestent son pouvoir. C'est une des particularités de la Birmanie. Vous le savez, il y a une multitude d'ethnies et beaucoup de mouvements indépendantistes en guerre contre le pouvoir central, notamment aux frontières avec la Thaïlande, la Chine ou l'Inde. C'est le cas des ethnies Chin et Kachin dans le nord de la Birmanie. Là-bas, des guérillas se rebellent. Elles se procurent des armes, tuent de nombreux soldats. Elles commettent aussi des actes de sabotage en coupant par exemple les communications militaires. La junte redoute que ses combattants s'unissent et mènent des actions communes avec la mouvance armée de l'opposition, baptisée Force de défense populaire, qui appelle tous les Birmans à la rejoindre. C'est pour cette raison que le régime putschiste mène actuellement autant d'opérations contre des civils, des petits groupes, parfois des villages entiers soupçonnés de soutenir la résistance. Les affrontements se multiplient, deux camps fourbissent leurs armes. Il y a aujourd'hui un risque important de guerre civile en Birmanie, à l'abri des regards qui plus est, car aucun journaliste étranger ne peut accéder au pays.
Et alors la communauté internationale, Franck, qu'est-ce qu'elle peut faire face à cette crise en Birmanie ?
Mais pour le moment, elle ne fait pas grand-chose. La junte birmane peut compter sur des soutiens de poids, dont sans surprise la Chine et la Russie. Et comme souvent, les grandes puissances ne parviennent pas à s'entendre. On en a eu la preuve le mois dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont trouvé un accord pour que personne ne puisse prendre la parole au nom de la Birmanie, ni un représentant du gouvernement tombé en février, ni un responsable de la junte. Une action concrète pourrait venir de l'ASEAN, qui regroupe 10 pays d'Asie du Sud-Est. Ses membres discutent d'une possible exclusion du chef de la junte birmane, Min Aung Hlaing. Il n'apprécie pas que leur envoyé spécial ne puisse pas rencontrer Aung San Suu Kyi, accusée de sédition et de corruption. L'ex-dirigeante témoignera pour la première fois à son procès à la fin du mois. En avril, l'ASEAN avait présenté un plan en 5 points pour résoudre la crise et faciliter notamment l'arrivée de l'aide humanitaire. La junte ne montre pour le moment aucun signe d'ouverture et semble donc choisir la manière forte pour imposer son autorité.
Merci beaucoup Franck Madvon. Je voudrais rappeler quand même que pour la première fois, c'était samedi dernier, le prix Bayeux des correspondants de guerre a récompensé samedi un lauréat anonyme qui est un photographe birman. Il était dans le jury, il était là, mais personne n'a pu lui parler.
Et ses photos sont magnifiques.
Ses photos sont sublimes. C'est l'une des rares personnes qui raconte la Birmanie aujourd'hui. Et anonyme, bien sûr, parce que sa vie est constamment en danger. Merci beaucoup, Franck Madvon. Dans un instant, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne.